Débat et controverses sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
9h06 sur BFM Business, les experts, on est ensemble et en direct jusqu'à 10h. On va évidemment revenir sur les questions budgétaires. On a désormais le plan avant le sprint final qui doit être présenté le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait après les discussions? Est-ce qu'il faut passer à l'action? Pour l'instant, la méthode François Bayrou, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'attendre et de discuter. Est-ce que c'est la bonne méthode? On en parlera ensemble. La sécurité sociale, c'est pas foutu. C'est ce que nous dit hier un rapport qui a été rendu, le rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie, de la famille, du financement de la sécurité sociale. C'est pas foutu, mais là aussi, il faut arrêter de discuter et agir rapidement. On verra quelles sont les pistes. La réindustrialisation, ça coûte trop cher pour pas grand-chose. C'est ce qu'a dit l'OCDE hier, qui a revu ses perspectives de croissance pour l'ensemble de la planète, selon ses conclusions. La baisse du commerce mondial, ça serait une baisse de plus de 18% qui entraînerait une réduction du PIB de 5%. Relocaliser, est-ce que ça sert à rien? On en discutera ensemble. Séjour de baromètre Odoxa, également pour les trois quarts des Français, la dissolution a été une catastrophe économique pour la France. C'est pas très surprenant, évidemment, au vu des chefs d'entreprise qu'on reçoit ici. Mais quand même, on détaillera le baromètre d'Odoxa. Trump, Musk, la bromance, c'est terminé. Elon Musk qualifie d'abomination répugnante le projet de loi budgétaire présenté par Donald Trump. Ça ne change strictement rien, a répondu la Maison Blanche. Et puis cette loi fast fashion qui est en discussion au Sénat. Est-ce que le déréférencement, c'est ça, c'est une bonne méthode? Parce qu'il faut arrêter la concurrence de Chine et Temu face au textile français. Et si on a le temps, on parlera même du dividende sociétal. Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Hier, Daniel Ball du Crédit Mutuel essaye de sortir l'idée du dividende sociétal des mutualistes pour essayer de faire des émules au sein des grandes entreprises. Les experts, c'est parti, je vous les présente. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Votre dernier livre, c'est Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est aux éditions Odile Jacob. En face de vous, Stéphane Van Nuffel, fondateur d'SVH Conseil. Et à côté, Gaël Sliman, le président et cofondateur d'Odoxa.
Bonjour Laure.
Budget, est-ce qu'il faut continuer à discuter? Est-ce que la méthode Bayrou est la bonne? Christian Saint-Etienne, il semble que on prenne du temps comme si on en avait un petit peu devant nous.
Oui, en fait, on prend du temps comme depuis 10 ans, et à chaque fois la situation empire. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est la même situation en France et aux États-Unis, c'est-à-dire que les deux pays ont des niveaux d'endettement comparables. Évidemment, les puissances ne sont pas comparables, mais les États-Unis s'inquiètent d'un phénomène qui nous guette. C'est l'augmentation très forte des taux d'intérêt, de telle sorte que les paiements d'intérêt en nominal, en argent payé aux détenteurs de la dette, vont doubler en 3 ans en France et vont fortement augmenter également aux États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que si on doit simultanément réduire la dépense en augmentant massivement les dépenses d'intérêt, ça veut dire que sur les dépenses hors paiement d'intérêt, la baisse va devoir être très significative. Donc sur l'éducation, quand on sait que au même moment, on doit dépenser plus pour former les gens, oui, pour faire de la recherche, pour l'armée, ça veut dire qu'il va falloir trouver des économies, notamment dans le budget dont on sait qu'il pose le plus problème. Et je termine par là, sur les 57 points de dépenses publiques en France, qui est le record du monde, il y a 33,5 points de protection sociale, c'est-à-dire à peu près 60% de la dépense publique, c'est de la protection sociale. Et quand on compare la France aux 19 autres pays de la zone euro, puisqu'on a la, oui, même monnaie, parce que souvent on compare la France soit à la moyenne de la zone euro, soit à la moyenne de l'Union européenne, mais ça n'a pas de sens, puisque comme on est très au-dessus, on fait monter la moyenne. Donc on est en compétition avec les pays, donc les 19 autres de la zone euro.
Faut nous sortir de la moyenne pour pouvoir être juste.
Faut sortir de la moyenne pour comprendre la nature du problème.
Moyenne.
Et on est à 9 points de PIB de plus que les autres pays de la zone euro. Et sur les 9 points, il y a 6,5 points sur la protection sociale. On ne voit pas qu'en Allemagne, les gens meurent dans les rues, qu'ils ne soient pas soignés, qu'ils n'aient pas d'école. Donc, la question, c'est vraiment à la fois éliminer toutes les causes de déficit qu'on connaît bien. Par exemple, sur les retraites versées hors de France, il y a eu des expérimentations faites par l'ambassade de France en Algérie qui a convoqué les ex-militaires qui reçoivent des prestations. 30% ne sont pas venus et dans ceux qui sont venus, il y avait de toute évidence des gens qui n'avaient pas fait la guerre. Donc, le nombre d'exemples de ce type est multiplié.
Là, c'est la fraude, quoi. C'est
donc,
vraiment.
Il y a vraiment de la fraude, bon, qui est peut-être sur la protection sociale d'une quinzaine de milliards, mais si on éliminait ça, c'est déjà une première marche. Et puis, on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps. Enfin, toutes les réformes qu'on évoque et qu'on n'arrive pas à faire.
Mais justement, Gaël Sliman, vous qui sondez l'opinion. On sait, Christian Saint-Etienne, on n'a pas besoin d'un énième rapport. Je pense que c'est bon, c'est clair. On sait que le sujet, c'est les dépenses sociales. Est-ce que les Français en ont conscience? François Bayrou dit il faut du temps, il faut que ça s'imprègne dans la tête des Français. Ils n'ont toujours pas compris?
Alors, compris, oui. Accepter, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a notre baromètre économique avec AJP, Challenge et BFM, dont on va parler tout à l'heure, qu'on réalise tous les mois, et régulièrement, on pose des questions sur ces sujets. On a un autre baromètre sur votre antenne avec BFM et Capital sur l'épargne, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pose la question, oui, bien sûr, les déficits, réduire la dette et les déficits, c'est capital, nous disent les Français, pour les trois quarts d'entre eux, et il faut faire des efforts. Le seul problème, c'est quand on leur dit quels efforts et qui doit les faire.
C'est pour le voisin.
C'est toujours pour mon voisin à droite ou mon voisin à gauche, jamais pour soi. Donc c'est très difficile d'accepter les efforts. Il y a quand même une conscience, Christian l'évoquait, qui est que nous disposons d'un système de protection qui est assez inédit. Et c'est aussi un asset, un atout, une plus-value pour les Français par rapport aux autres pays du monde. Parce qu'on le présente comme un handicap. On le voit sur les finances publiques, sur la dette, sur les déficits, mais dans la perception des Français, c'est le seul domaine où ils nous disent on est quand même mieux en France qu'ailleurs.
C'est sur de fierté, quoi.
Fierté et réconfort. Et
sur le fait de ne pas payer ni l'hôpital, ni l'école.
Sécurité. Voilà, un élément aussi de sécurité. Et pour finir sur ce sujet, la difficulté, on le sait, hein, ça fait des années, la difficulté pour un politique, c'est que s'il veut mener des réformes qui vont nécessiter en réalité pour qu'elles soient justes, qu'en gros, chacun paye à un moment donné, qu'on sente un sacrifice par rapport à des avantages qu'il a. Je suis convaincu que les Français sont capables d'accepter ça, même si on préfère toujours que ce soit le voisin qui paye. On peut l'accepter, mais il faut une condition. Il faut que le Premier ministre ou le chef de gouvernement ou le président de la République qui porte ça bénéficie d'un minimum de crédit.
Oui.
Or, ouais, c'est tout ce à quoi on assiste là, moi, pour sonder l'opinion et voir les résultats de notre dernier baromètre politique encore, c'est une catastrophe en termes de popularité, François Bayrou.
Là, même le président.
Alors, le couple exécutif va très mal, le président est très largement rejeté. Il s'est un petit peu refait la cerise, si vous me passez l'expression, sur les sujets internationaux, notamment sur ses prises de position sur Gaza, qui étaient très attendues par les Français. Donc, il a pu marquer des points là-dessus. Mais globalement, il y a quand même 7 Français sur 10 qui n'apprécient pas la politique menée par Emmanuel Macron. Quant à Bayrou, c'est le Premier ministre le plus impopulaire de toute l'histoire de la Ve République.
Donc ça ne peut être qu'un président qui vient d'être élu et correctement élu. Alors, c'est à peu près ça, quoi. Ça se fait dans les 100 jours quand vous avez encore.
Il y avait deux possibilités. Soit un président qui vient d'être élu, donc ça veut dire que, en gros, on aura du pipeau pendant des mois et il faudra attendre réellement 2027
ça va être très long, hein,
pour avoir de vraies réformes. C'est tout à fait probable, selon moi. L'autre hypothèse eût été ou serait peut-être, s'il y a de nouveau une dissolution, qu'à l'issue d'une dissolution, Emmanuel Macron fasse ce qu'il n'a pas fait la dernière fois, il a commis à mon avis une erreur stratégique qui consistait à dire écoutez, j'ai perdu, je m'en vais peut-être pas forcément, mais le gouvernement qui va gouverner sera issu de l'Assemblée et proposer aux forces politiques un deal qui les oblige en fait à se mettre d'accord à la mode allemande. Ouais. Alors ça peut prendre du temps.
Ouais. Et là, c'est pas très allemand
dans la situation politique que nous vivons là.
Nous on dit que tout le monde a gagné.
Avec la dissolution, obligé en fait à ce type de réaction. Bon, ça n'a pas eu lieu.
Et Gaël, il n'aurait pas dû faire ça en 2022 en fait.
Ben voilà, en 2017 déjà.
Ouais, mais en 2022, quand il est affaibli, il fallait faire un contrat de gouvernement avec LR.
Ah, après les législatives.
De toute façon, on va pas faire l'histoire parce que c'est cuit, on va passer deux longues années.
En tout cas, c'est mal barré, c'est mal barré pour arriver.
Prenons notre mal en patience.
On ne peut pas attendre deux ans, là.
Malheureusement, on ne va pas trop avoir le choix. Alors, c'est, tout ce que vous avez dit est très juste, donc je vais juste ajouter un élément, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit les thèmes, même de ce matin entre nous, qu'on a envie de traiter, quand on lit la presse, etc., on a la sensation maintenant que c'est devenu une extrême urgence, que les déficits sont trop importants, Christian le rappelait, là, on ne peut plus. On peut plus. Et je pense que le discours politique, même si en France, ce sera très compliqué, pour éviter cette sensation de oui, on va faire des réformes, mais je vais demander à mon voisin, ce serait peut-être que quelqu'un enfin explique aux Français, parce que moi je les vois, et tu parlais d'épargne, Gaëlle, moi je les vois. Ils n'ont pas de lecture de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pendant un moment donné, c'est logique, je prends l'exemple très très caricatural des confinements successifs, du Covid, etc. Ça a été le peu importe. Oui, on envoyait de l'argent, mais c'est normal. Il fallait protéger la population, la soigner.
On est allé un peu trop loin.
Quoi qu'il en coûte. Mais ce qui était logique,
ce que vous appelez le peu importe. Mais l'idée est la même.
Avec le geste, avec
peu importe ce que vous voulez, le guichet est ouvert.
De la distribution un peu. Bon,
je comprends l'idée. Ça a été fini un peu comme ça d'ailleurs.
Non, mais ça a été mal expliqué à un moment donné de dire on n'avait pas le choix de faire ça. Ce quoi qu'il en coûte, il a été pris comme allez, on ouvre les vannes, etc. Et depuis ce quoi qu'il en coûte, on a l'impression qu'on a oublié qu'il y a quand même une grande partie des dépenses qu'on traîne encore aujourd'hui qui ne sont pas des dépenses intrinsèques au système français, à notre mauvaise gestion, à tout ce qu'on entend depuis 40 ans, qu'on doit encore absorber ça et que dans l'autre sens, il faudrait y aller par étapes. Voilà. Il y a des gros déficits sur la protection sociale, la sécurité sociale, il y a des gros déficits sur la santé, fondamentalement au niveau de nos hôpitaux, etc., etc. Il faudrait prendre des premières étapes, pas dire aux Français tout de suite, il y a tel déficit de moins 4,5, moins 6,5, c'est trop, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à voir l'ampleur du schéma. Donc je pense qu'un homme politique ou un dirigeant qui arriverait avec un plan comme le ferait n'importe quel chef d'entreprise en disant on se donne 2 ans pour être à moins 2, on se donne 2 ans pour être à 2, à 0, pardon, et puis etc. Pas, c'est la panique, il faut payer. Parce que quand vous dites ça aux Français, c'est exactement le même système.
C'est un peu comme le réchauffement climatique.
Non, mais
vous
c'est comme
quand
on dit à mes clients,
vous achetez des t-shirts chez Chine.
Voilà.
Parce que vous dites, de toute façon, c'est cuit, quoi.
C'est cuit. Mais, voilà. À partir du moment où c'est cuit, on va dire, on fait quoi? Maintenant, s'il faut y aller, c'est urgent. On fait quoi?
On épargne.
Je reviens quand même à la question de l'OAT qui doit être à peu près notre seule boussole si on veut garder la tête froide. Vous croyez à un moment donné à un accident de crédit potentiel sur la France?
Alors, tout le monde dit on a une assurance qui est la BCE qui ne pourra pas laisser un accident de crédit sur la France. Mais la BCE peut attendre que ça fasse très mal à la France. C'est-à-dire qu'elle peut acheter une partie de notre dette, mais tout en laissant monter les taux d'intérêt.
Elle l'a un peu dit, Christine Lagarde, dernièrement. Les pays qui se mettent tout seuls dans le mur, ils se débrouillent.
Oui, donc ça, c'est un point important. Mais surtout, ce qui est clé, c'est que l'argent que vous versez sous forme d'intérêt sur la dette, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser sur l'éducation, sur la recherche ou sur la défense. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Gaëlle. Les Français considèrent que la protection sociale, c'est un élément de sécurité. Ils ont raison. Et personne dit qu'il faut balayer la protection sociale. Ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est un des atouts que nous avons. Le point clé, c'est la question de l'efficacité de la dépense et de la justice dans la dépense. Ce que l'on évoque actuellement, c'est par exemple passer à 1 euro payé par les Français par boîte de médicaments. On ne parle pas de renoncer au remboursement des dépenses de santé. Sur la visite chez le médecin, on pourrait dire, vous payez, si c'est 30 euros sur la visite, vous payez 3 euros. Voilà. L'idée, c'est qu'on revienne à un reste à charge qui, il y a quand même eu beaucoup de travaux là-dessus, avec l'informatique aujourd'hui, on sait exactement le reste à charge qui est resté par Français et on peut le caper. On peut dire, quand vous aurez sorti 500 euros de reste à charge, pour ceux qui gagnent qui gagnent le SMIC ou en dessous, on vous paiera, on vous remboursera le reste à charge au-delà de 500 euros.
Peu importe votre besoin, vous ne payez jamais plus d'un montant.
Voilà, si vous gagnez beaucoup d'argent, on vous laisse le reste à charge, quel que soit le montant. Mais si vous avez des revenus très faibles, on vous cape le reste à charge et vous n'aurez plus de reste à charge si vous êtes très malade, ainsi de suite. Voilà, l'idée, c'est de remettre des freins dans le système qui permettent de contrôler sur le RSA. Il faudrait qu'il y ait une visite régulière tous les ans pour vérifier ce que les gens font, comme on le fait à France,
France Travail
ouais. Pour vérifier que les gens font des efforts pour se réinsérer. Voilà. Il y a toute une mécanique à réintroduire. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Il y a des petites choses qui ont été faites, mais de toute évidence, c'est pas suffisant.
Gaël, il y a un rapport au prix. Hein, au prix des choses, c'est gratuit, donc on n'a pas l'impression que quelqu'un paye. Est-ce qu'il y a ce besoin de refaire comprendre aux Français qu'il y a toujours quelqu'un qui paye quand même à la fin?
Je suis d'accord avec Christian, je pense que des éléments qui permettraient que chacun, avec des rétro-commissions, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous rembourseriez ceux qui étaient très démunis et que finalement auraient dépensé trop en reste à charge, ce serait une bonne solution. Mais on retombe sur le même sujet. Regardez la mécanique complexe, enfin, complexe, c'est pas si complexe, mais...
L'informatique, on le
non,
fait.
Non, mais
là,
c'est pas techniquement,
ouais.
C'est dans l'esprit
des gens.
Il faut de la transparence. Pour qu'il y ait de la il faut qu'il y ait de la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut que le gouvernement, tout par-delà, il faut que le gouvernement que vous avez au pouvoir inspire cette confiance. Qu'on se dise, ils ne vont pas me rouler dans la farine.
Ouais.
Et ce n'est pas du tout le sentiment qui existe aujourd'hui à l'égard du Premier ministre ou à l'égard du Président de la République. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà vécu des périodes comparables où vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir. Vous voyez d'ailleurs sur notre morale, notre baromètre à JP Challenge BFM, on a un indice de morale qu'on suit depuis des années.
Ça va, tout le monde est pessimiste,
oui,
8 sur 10.
Mais ce qui est drôle, c'est quand on regarde la courbe sur le temps long, on se rend compte, ah tiens, il y a des pics, mais il y a des pics incroyables à chaque fois. C'est sur le moral économique, hein, je précise.
Mais les pics, c'est quoi? C'est facile? C'est le Covid? C'est la crise énergétique?
Les pics en hauteur, en positif, ce sont les élections présidentielles.
Ah, ça rend optimiste.
Chacune des élections présidentielles provoque un pic. Et dans le même temps, quand vous dites aux gens...
Le grand soir.
Au même moment. Oui, c'est un peu ça.
Non, mais
quand vous dites
oui.
aux gens, est-ce que vous pensez que le prochain président, quel qu'il soit, va améliorer? Oh non, non, non. Mais en fait, ils y croient. C'est-à-dire que nous sommes un peuple... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on déteste tant nos gouvernants. C'est parce qu'en fait, on y croit beaucoup plus que dans les autres pays. Ouais. Au fond de nous-mêmes.
C'est comme en amour, quoi. Les gens sont déçus.
C'est exactement ça. C'est du désamour. Et donc,
les gens sont déçus
ça provoque. Et tout ça pour dire qu'un élément clé pour nous, je ne crois pas du tout, moi, qu'il y aura de grandes réformes possibles d'ici 2027. Je ne le crois pas une seconde.
Oui, mais ça va nous coûter cher.
Eh bien oui, non, mais ça, je suis convaincu. En revanche, tout le reste, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça va nous coûter cher. Il faudrait, c'est impératif, il faut absolument. Mais ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver politiquement.
Non, mais donc, ça commence. Ce que je disais, étape par étape, des petites choses.
Non, mais
c'est quoi des petites choses sur les taxis? On n'a pas réussi.
Non, mais ça,
parler du comportement des gens, les gens vont à l'hôpital et disent j'ai besoin d'un taxi, mais et on ne peut pas réformer.
Tout à fait. Et pourtant, c'est une mesure populaire sur les taxis.
Alors, les taxis, c'est un bon sujet. Il se trouve que je l'ai abordé avec des chauffeurs de taxi, avec des chauffeurs de VTC. Quand vous prenez un taxi pour aller à l'hôpital, il y a un bon de transport. Quand vous arrivez, il faudrait exiger que le malade demande le reçu au taxi, parce qu'il y a des taxis qui me l'ont dit, ils savent entre eux qu'il y a des taxis qui laissent tourner le compteur après avoir déposé le malade à l'hôpital.
C'est le grand classique.
Oui, c'est le grand classique. Donc, il faudrait exiger du patient qu'il demande le reçu. J'irai même plus loin, ce qui a été même proposé par des chauffeurs de taxi, que le patient paye et il est remboursé sur le bon de transport, sur le bon que lui a remis le taxi. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que ces dépenses baissent de 20 ou 30%. Donc, l'idée, c'est que les gens arrêtent de penser que c'est gratuit.
Et c'est pas gratuit parce que c'est leur argent. Non, mais ce que dit Christian est très juste, parce que c'est le principe de la consigne. Et évidemment, le principe de la sécurité. Voilà, moi, je suis quelqu'un du digital, donc c'est très dur pour moi, parce que c'est une espèce de paradoxe intellectuel de dire la digitalisation, par exemple, des frais de santé, la fameuse carte vitale, a été une avancée en termes de gestion des data de santé, etc. Rappelez-vous,
Mais ça fait une carte de crédit gratos.
C'est une carte de crédit gratos. Mais alors, gratos dans l'esprit des gens. Parce qu'en fait, cette carte de crédit, c'est une carte de crédit commune à nous tous. Et en fait, ça a été pour moi le plus gros symbole de la mécompréhension d'une génération entière de Français qui est née après nous, qui ont compris que l'État, c'était une espèce de pourvoyeur de fonds, et ils n'ont pas compris que l'État, en fait, c'était nous. Donc en fait, tout ça pourrait passer par des consignes. Peut-être pas avancer la note du taxi, parce que c'est des grosses notes.
La suppression du tiers payant est une catastrophe.
Bien, pour quelqu'un qui a besoin d'aller à l'hôpital, de prendre des taxis, etc., 50 euros à chaque fois, ce serait compliqué. Mais je suis d'accord avec Christian. 1 euro, 2 euros qu'on lui rendrait plus tard, juste là, c'est toute petite chose. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de les confréries des VTC contre les confréries des taxis. Non, là, on ne pointe du doigt personne. Parce que là, les taxis, je peux comprendre qu'ils hurlent. Parce que on le sait, les fraudes sur les taxis, c'est 7 à 8%. Ces fameux trucs qui tournent tout seuls. La grande majorité des autres, ils font bien leur job.
Comme dans tous les métiers, il y a
toujours 10% de gens qui trichent. Voilà. Et on ne peut pas raisonner que sur la triche.
Gaël, il nous reste 2 minutes avant la pause. Ce que je comprends quand même de votre baromètre, vous l'avez fait à quel moment?
C'était la semaine dernière.
La semaine dernière, on comprend quand même que le politique a quand même un rôle. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose. Moi qui parfois me dis ça sert à rien, ne leur parlons même pas. En fait, si, c'est-à-dire que il peut à un moment donné prendre des décisions, changer le cours des choses et les Français les écoutent.
Oui, les Français les écoutent tout en disant qu'ils ne les écoutent plus, mais en fait ils les écoutent vraiment. Et là, alors malheureusement c'est pour le pire qu'ils ont changé les choses. C'est le thème, l'angle qu'on s'est choisi puisqu'on arrive au 1 an de la dissolution. Le bilan qu'en tirent les Français, vous l'avez rappelé en un mot il y a un instant, Laure, c'est que pour les 3/4 d'entre eux, ça a été une catastrophe économique pour notre pays. Vos invités sur vos plateaux vous le disent tous les jours, mais ce sont des chefs d'entreprise ou des acteurs de l'économie. Madame Michu, Monsieur Durand s'en est parfaitement rendu compte. Et quand on regarde le détail, on a balayé tout ce que
c'est
nos concitoyens...
que les 3/4 aient compris.
Alors, ils l'ont parfaitement compris, ils nous disent. Ça a été une catastrophe, donc conséquence négative sur la situation économique de la France à 75%, la situation des entreprises françaises 71%, la situation de l'emploi à 69%, et les investissements étrangers en France 61% disent conséquence négative. Mais pire, on a une majorité de Français qui pensent que cette dissolution... En termes de conséquences économiques, elle a eu aussi des conséquences économiques négatives pour leur propre situation personnelle. Parce qu'ils ont bien compris tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que cette dissolution, parce que président ou Premier ministre impopulaire, c'est pas très grave. On est habitué en France.
Les bonnes décisions.
Non mais on est habitué, mais avec une majorité forte à l'Assemblée, bon, ils prennent des décisions qui déplaisent, et puis c'est la vie, ils seront battus aux prochaines élections. Là, ils ne peuvent pas. Parce que il faut bien comprendre que
c'est quand même eux qui ont voté.
Oui, mais ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi les Français.
Ils n'ont pas choisi de faire le merdier en fait.
Non, ils ont chacun. Non, chacun.
Le fou la poule quand même.
Mais non, chacun.
Non, mais c'était dissous. On dissout d'abord, on a voté après.
Oui, mais si tu dissous, c'est quand même pour donner justement aux Français le choix de faire les efforts qu'il faut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont explosé complètement le.
Mais non, mais ils ont pas. Mais non, ils n'ont pas choisi de voter à un tiers pour le Rassemblement National, à un tiers pour la gauche qui a des mesures complètement antinomiques, et à un tiers. Il se trouve que chacun a fait en fonction de son choix. Chacun s'est dit, génial, le RN va être au pouvoir. Génial, la majorité présidentielle va être reconduite. Génial, la gauche va être au pouvoir. Patatras, les trois se sont retrouvés en situation d'équilibre.
Ouais. Et donc, fallait pas dissoudre. De toute façon, on trouverait personne.
Fallait pas dissoudre.
Personne pour défendre ça.
Et il fallait partir en ayant perdu. Même.
Et il fallait partir en ayant perdu et en permettant au pays de se reconstruire.
Ça, c'est les princes. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On revient dans une minute. Vous bougez pas, les experts. On marque une pause.
Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
Les experts, on est ensemble et en direct jusqu'à 10h sur BFM Business avec Gaël Slimane, avec Christian Saint-Etienne et avec Stéphane Van Nuffel. Christian, vous disiez, on parlait de la dissolution et de ses impacts, le fait que les Français trouvent que c'était une erreur économique. On peut chiffrer, on peut clairement dire que ça a été une erreur.
Par rapport à ce qui était anticipé en termes de croissance au printemps 2024, pour le deuxième semestre 2024 et pour le premier semestre 2025, on a perdu 0,25 point au deuxième semestre 2024 et 0,5 point au premier semestre 2025. Au printemps 2024, les grandes organisations internationales et les instituts de conjoncture s'attendaient à ce qu'on surperforme la moyenne européenne. Et là, on a sous-performé. Rappelez-vous le deuxième semestre, ça a été un concert de propositions de nouveaux impôts quasiment tous les jours à l'Assemblée nationale. Les gens étaient tétanisés, les décisions ont été reportées, à la fois les décisions d'embauche et les décisions décisions d'investissement. Et au premier semestre, il y a une attente considérable aggravée par Trump. Donc, sur la période juillet 2024 et toute l'année 2025, sur les 18 mois, on a perdu une trentaine de milliards d'euros de création de richesses. Sachant que l'État prélève quasiment la moitié de la création de richesses, ça aurait été 15 milliards de recettes naturelles qui seraient tombées et on aurait continué de... Là, actuellement, on a un record de fermeture d'entreprises devant les greffes. Enfin, on a une situation, c'est exactement ce que disait Gaël, en fait, la perte de confiance, c'est la perte d'anticipation sur l'avenir, c'est-à-dire que les gens ne voient pas où on va.
Donc ils épargnent,
un taux d'épargne hors norme et une baisse de l'investissement industriel.
Alors, on part aux États-Unis. Ils épargnent mal. Comment ils épargnent mal?
Ils épargnent sur les mauvais supports.
C'est-à-dire qu'ils gonflent le livret A, ils font de l'assurance vie en fonds euros.
Donc en plus, ça ne c'est pas une épargne.
Ça irrigue pas.
Ça ne permet pas de financer l'armement, l'éducation et tout.
La transition écologique est quand même un petit peu importante.
On part aux États-Unis, il y a trois infos de la nuit. Donc Donald Trump qui a signé le décret sur l'acier et l'aluminium à 50% cette nuit. Donc c'est bon, c'est passé. Il y a Elon Musk qui qualifie d'abomination répugnante le projet de loi XXL. On se demandait comment il arrivait encore à soutenir Donald Trump, sachant quand même que les décisions sur les droits de douane, ça lui revient directement dans la tête avec ses entreprises. Troisième info que j'ai oublié. Ah oui, si c'est Donald Trump qui dit que les discussions avec les Chinois, ça avance, il les adore, mais que c'est quand même très compliqué. Donc on arrive quand même, on prend du temps sur cet accord entre les États-Unis et la Chine. Christian Saint-Etienne, ces droits de douane, concrètement, l'OCDE nous dit que ça va contracter l'économie mondiale. Il n'y a aucune chance pour qu'à un moment donné, Donald Trump arrive à ses fins, c'est-à-dire réindustrialiser, faire rentrer de l'argent dans les caisses américaines et baisser le dollar.
Trump, dans ses anticipations fournies par certains de ses collaborateurs, imaginait qu'il allait recevoir en droits de douane à peu près 600 milliards de dollars. Et que ça lui permettrait de financer les baisses d'impôts. Bon, il va pas recevoir 600 milliards. Aujourd'hui, les anticipations calculées par des économistes américains, c'est entre 350 et 400. Néanmoins, il a fait son package de baisses d'impôts. Maintenant, c'était évalué par l'office comptable du Congrès américain à 3 trillions de dollars, 3 000 milliards de dollars de dettes de plus pour les États-Unis, ce qui a fait décaler à la hausse les taux d'intérêt sur la dette américaine. Là, pour la première fois dans le Wall Street Journal, dans d'autres journaux américains, on commence à dire, mais est-ce que les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette? Donc, on sait qu'ils ne feront pas défaut, mais la contrepartie...
Avec le fait d'en discuter, c'est quand même...
Voilà, le fait d'en discuter, et deux, tout de suite dans les articles, on vous dit, mais en fait, comme on ne va pas faire défaut, ça va sortir, on en sortira par de l'inflation, réduisant la dette. Donc, il y a de vraies interrogations sur la conduite de la politique économique américaine. Mais par rapport à l'anticipation de l'OCDE rapidement, les États-Unis aujourd'hui, si on fait une moyenne des différentes proportions qu'on peut calculer, les États-Unis, c'est à peu près 23% du PIB mondial, mais c'est 11% du commerce mondial. Donc Trump est en train, en réalité, c'est pas la libération des États-Unis, c'est l'enfermement des États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont faire du commerce autour des États-Unis. Donc là, il y a des négociations qui avancent entre l'Union européenne et l'Inde. Il y a des négociations qui ont été conclues avec le Japon. Il y a des négociations qui vont se renforcer avec l'ASEAN. Donc la question.
On va peut-être dire oui au Mercosur, du coup.
Voilà, on va finir par dire oui au Mercosur, sachant que ça pose des problèmes puisqu'on n'a pas les capacités en Europe de vérifier ce qui arrive chez nous, c'est-à-dire est-ce qu'ils respectent les normes sanitaires qu'on a ici. Bon, mais donc, en fait, le commerce mondial va se réorganiser autour des États-Unis. Donc, c'est les États-Unis qui vont le plus perdre dans cette affaire.
Stéphane.
Moi, on l'a dit sur ce plateau il y a déjà quelques mois, quoi. C'est-à-dire que les Américains, c'est marrant parce qu'on parlait de ça par rapport aux Français et à leur compréhension de ce qu'ils font. Les Américains sont partis comme des balles sur le programme de Trump et c'est vrai que tout était tellement simpliste, ils n'avaient aucune notion qu'en fait c'est les États-Unis qui vont souffrir le plus. Maintenant, moi dans tout ça, je retiens juste un truc, c'est que ce qui devait arriver est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous de comprendre ces mécanismes, parce que moi qui ai pas mal été aux États-Unis, la culture économique des États-Unis est une culture 100% positive. Les Américains ont du mal à scénariser n'importe quel scénario qui n'irait pas bien dans le sens de la réussite.
C'est pas comme chez nous.
Jamais. En fait, ils ne voient jamais
c'est
ça.
C'est l'inverse. Et
en
fait, non,
mais, du coup, on se comprend pas.
Et non, mais, et ouais, et non, mais le duo d'Elon Musk et Trump, je veux dire, aucun Français, quel que soit son bord, ne voyait pas arriver à très court terme le clash pour des choses assez basiques à un moment donné. Bon, et ben là, aux États-Unis, il y a, je sais pas si vous regardez un peu les médias américains, il y a quand même pas mal de gens, électeurs de Trump, sont très surpris en fait que les droits de douane imposés par Trump, qui pénalisent principalement Tesla, puissent énerver Elon Musk, qui en plus se fait virer du... Bon, voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la seule chose, c'était le sens de mon propos, je fais attention à ce que je dis, parce que j'ai déjà dit une fois ici, puis je me suis fait pourrir sur Twitter, la force de Donald Trump, je pense attention le mot la force, c'est qu'il est capable de tout. Voilà, il est capable de faire marche arrière, de revenir en arrière, il s'en fiche complètement. Il a un ego qui est très centralisé, mais il peut dire blanc et noir dans la même journée. Pour lui, il n'y a aucun problème. Il n'a pas notre problème à nous, qui est un problème de ni-ni, mais en même temps, voilà, pour reprendre les expressions habituelles. Donc, en fait, il peut faire quelque chose et le casser du jour au lendemain.
Oui, mais il y a quand même une stratégie, quand même. Enfin, Christian, bah,
je suis pas sûr.
L'objectif, c'est quand même de réindustrialiser un certain nombre d'endroits précis aux États-Unis. C'est quand même de baisser les impôts. Il y a quand même un fil, non?
Oui, enfin, il y a deux Trump. Il y a le Trump qui voulait réindustrialiser en réduisant les importations, donc avec les droits de douane. Cette politique ne fonctionne pas parce que, certes, Stéphane dit que lui, pour Trump, ça ne le gêne pas de dire blanc et noir dans la même journée, voire dans la même heure.
Minute.
Mais néanmoins, ça a des conséquences. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, eux, ils se disent, est-ce que je vais vraiment investir aux États-Unis? Parce que je ne sais pas quelles seront les conditions fiscales et sociales demain. Donc, ça conduit au fait que, pour l'instant, la réindustrialisation n'a pas démarré aux États-Unis.
Pardon Christian, mais Bernard Arnault et d'autres grands patrons sont quand même plus sereins d'aller aux États-Unis en ce moment que de continuer à investir.
Oui, mais Bernard Arnault, par exemple, a un vrai problème. Il vend du Made in France. Donc,
du
Made in France fabriqué aux États-Unis, c'est plus du Made in France. Donc, il est obligé de limiter de ce fait la production en dehors de France, sachant qu'il a ouvert des dizaines et des dizaines d'usines en France pour développer ses affaires. Donc, le deuxième Donald Trump, c'est marrant parce que c'est le seul qui, lui, est toujours sur la même ligne. C'est le Donald Trump contre le wokisme, contre la transformation des États-Unis.
Là, il n'a pas bougé là-dessus. Hein.
Et là, il est sur une ligne droite.
Il ne restera que l'université Harvard, en fait. À la fin, il ne restera que ça. Gaël.
C'est vrai que sur ce second Trump, s'il y a ses deux jambes, et on ne se rend pas compte en France de à quel point le wokisme a fait beaucoup de bien à Donald Trump. C'est-à-dire que ça l'a fait élire. C'est-à-dire que le positionnement, nous, on ne réalise pas chez nous comme ça. Mais
parce qu'on ne réalise pas à quel point il était aussi allé trop loin aux États-Unis.
Bien sûr. C'est-à-dire que pendant 10 ans, les démocrates ont été très portés par ces idées qui étaient portées par des communautés, les communautés LGBT, les communautés qui poussaient, qui faisaient, alors on parle beaucoup de ça avec les frères musulmans, mais qui faisaient de l'entrisme, en fait, dans les partis politiques, au point que l'alpha et l'oméga...
Les communautés raciales aussi.
Oui. L'alpha et l'oméga des prises de position des démocrates américains, et notamment de Kamala Harris, étaient sur des sujets, d'abord, que les Français, comme les Américains, même quand ils sont pour, considèrent comme secondaires ou anecdotiques, et souvent allaient beaucoup trop loin. Ce qui fait que ça a permis à Trump de se réaliser. Donc ça, il le gardera, il en est sincèrement convaincu, et je pense que l'immense majorité des Américains est en phase avec lui.
Au moins 60%.
Pour dire, il y a que deux sexes. Je pense que vous prenez 90% des Américains et vous dites, bah oui, je crois que c'est évident. Fallait-il signer un décret pour ça? C'est un autre sujet.
Gaël, comment on regarde en France Trump? On n'arrive pas à le comprendre parce qu'on n'a pas le même mindset ou...
Trump, c'est génial parce que c'est sans doute la personnalité de manière constante la plus détestée de France quand on fait des baromètres.
Et d'Europe, presque.
Et d'Europe, quand on fait au niveau européen, c'est de la haine pure. Et surtout, on se frotte les yeux, on se gratte les oreilles en se disant, comment c'est possible qu'aux États-Unis, ils aient pu voter pour un clown pareil. Le sentiment, si vous me demandez...
Non, les Américains pensent pas que c'est un clown.
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du wokisme qui a fait élire Trump. Aux États-Unis, jusqu'au jour de son élection et dans la foulée, vous avez toujours eu une majorité d'Américains qui avaient une mauvaise opinion de Trump. Oui. Et c'est pas comme quand on a une mauvaise opinion de François Bayrou. C'est, vous voyez,
oui,
c'est,
mais quand vous voyez les
c'est une mauvaise opinion radicale.
C'est une mauvaise opinion.
Comment tu dis?
Quand vous voyez les scores des populistes en Europe, enfin, il y a dernièrement en Pologne, il y en a un qui a été élu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, ils ont peur de Trump, mais tout ce qui ressemble à la mouvance, ça fonctionne.
Alors,
même, hein.
En France, vous avez, alors partout dans les grandes démocraties depuis une dizaine d'années, il y a eu des tas d'ouvrages là-dessus, de travaux qui ont été menés, et puis on le mesure régulièrement dans nos sondages. Vous avez une poussée populiste. Maintenant, c'est comment se matérialise ce populisme. Vous voyez bien qu'une Marine Le Pen, si on transpose par exemple à la France, une Marine Le Pen ou même un Jean-Luc Mélenchon, prenez les deux, ça n'a pas grand rapport avec Donald Trump. Tu le disais il y a un instant, il est capable, dans le même tweet, quasiment deux tweets en quelques secondes,
Mélenchon aussi,
de dire tout et son contraire. Alors oui, Mélenchon aussi, mais ça va être sur des choses...
Sur plusieurs années, c'est ça?
Non,
ça,
il faudra laisser quelques jours s'écouler, ou ça peut être parfois sur un sondage. Parfois, il peut dire, d'après tel sondage, et il va le mettre en valeur, un sondage à nous, par exemple, un sondage au Doxa, et puis dans le même tweet, expliquer que les sondages, ça ne vaut rien, parce que dans le même sondage, les deux tiers des Français disent que c'est le pire homme politique qui existe. Donc, vous avez quand même une spécificité Trump, c'est là où je voulais en venir, que vous pouvez trouver éventuellement chez Milei en Argentine, que vous pouviez trouver chez Bolsonaro à un moment au Brésil. C'est très, comment dirais-je, du populisme américain, Amérique
c'est
latine.
C'est du Trumpisme, ça n'existe pas.
Et ce qui est incompréhensible pour moi, en revanche, c'est pas tellement le revirement d'Elon Musk aujourd'hui, c'est je ne comprenais pas que quelqu'un comme Elon Musk, pour des raisons, pour le coup, d'intérêt égoïste pour lui, hein, et pu soutenir ce problème. Parce que ce que fait Trump, pour le coup, autant il dit tout et son contraire dans le même tweet, autant ce qu'il fait aujourd'hui, il l'avait annoncé depuis
Musk
très longtemps.
C'était aussi contre le wokisme.
Oui, il y avait une part de ça.
Pour appuyer ce que disait Gaël tout à l'heure, le choc de l'élection de Trump l'année dernière, c'est que un tiers des latinos et 20% des hommes noirs ont voté Trump. Parce que
pour
même eux,
ils
en avaient marre du wokisme.
Un petit brin de misogynie aussi profond, mais ça c'est... Ouais.
Stéphane, sur Trump.
Bah, je disais, moi, il n'y a pas de populisme chez Trump. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que ce serait intéressant de faire un sondage, parce que pour moi, dans les 20 ou 30 dernières années, qui sont à peu près ma génération, j'ai envie de dire, de connaissances politiques un peu élevées, je pense que tout ce qui était l'époque Bush, administration Bush, avec les Dick Cheney, les Donald Rumsfeld, etc., on était quand même sur des gens beaucoup, pour moi, hein, beaucoup plus dangereux pour la planète, pour l'équilibre de la planète, que Donald Trump. Lui, il concentre. Pas jusqu'ici, en tout cas, Gaël a déjà été président 5 ans.
Ouais. Il n'a pas fait de guerre.
Pas eu de guerre,
il a fait la guerre du Golfe.
Ça change un peu tout. Alors qu'il avait dit qu'il allait arriver là.
Il dit qu'il veut annexer le Groenland, qu'il veut annexer. Dans les intentions.
Il le dit. J'ai dit ici sur ce plateau, Donald Trump, il arrive. Je pense que dans les négociations, moi qui ai lu plusieurs bouquins sur lui, contrairement à la façon de négocier des Français, lui, il arrive, il met sur la table un truc tellement énorme que la négociation d'entrée. Elle est déstabilisée. Il sait très bien ce qu'il
veut chercher. Ça s'appelle un effet d'encre.
Oui. Ou la mad stratégie. C'est forcément
pour des gens comme nous, un peu timorés, un peu bien élevés, etc. On n'aime pas sa façon d'arriver. Il pousse la porte, il doit s'asseoir n'importe comment, mettre ses affaires, etc. Mais il est pragmatique. C'est rassurant quand même en économie, parce que nous, on n'est pas pragmatique. On est des machines politiques.
Il obtient quand même à peu près toujours de mauvais résultats. C'est-à-dire qu'à chacun... Vous savez, on parle beaucoup de l'art du deal, mais c'est bidon. Alors, ce qui marche bien, c'est dans l'opinion, c'est vrai qu'il peut dire tout et son contraire, et ça passe. Il l'avait dit, hein, je pourrais passer sur la 5e avenue, tirer une balle dans la tête à quelqu'un, mes électeurs voteraient toujours pour moi. Et ça, c'est vrai. Il n'a pas tout à fait tort.
Il se rapproche de Dieu.
En revanche, les résultats, il ne les obtient presque jamais, en fait.
Ah, la croissance a ralenti aux États-Unis par rapport à ce qui était anticipé.
Mais après, ça peut être le cycle. Enfin, non, c'est-à-dire que c'était déjà... Là, c'est... Oui, mais la baisse de la croissance américaine, c'était déjà anticipé avant Trump.
Il ne faut pas oublier que la politique de Trump va enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Il faut avoir quand même à l'esprit que les États-Unis, c'est la première puissance du monde, mais que 30% des Américains s'en sortent à peine.
Ouais. Hein, en ayant d'autres jobs.
Ils sont au dollar près jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça d'ailleurs que il y a un taux de suicide, et surtout pourquoi Trump se bat contre le Mexique et le Canada sur le fentanyl. C'est parce que une mortalité des blancs américains pauvres qui est extrêmement élevée. Voilà, donc les États, et or Trump par sa politique va aggraver cet écart, hein, puisqu'il baisse les impôts des riches, et sur la sécu il baisse les remboursements et il baisse les aides qui sont données à la population. Donc, on a une dichotomie de la société américaine qui s'aggrave. Mais ça veut dire que la classe moyenne, elle ne voit pas les bénéfices de ce que Trump veut faire.
Son électorat, le gros de son électorat, pâtit économiquement et de sa politique.
Bon, il nous reste 10 minutes pour parler de la loi fast fashion. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que nous, pendant ce temps-là, en France, on a l'industrie du textile et surtout les commerces qui tentent de faire interdire le référencement de Chine, de Temu. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas, Christian Saint-Etienne?
Alors, sur la technique du déréférencement, il faut faire attention à la façon dont on le manie, mais en revanche, l'autre chose qu'on devrait faire, c'est malheureusement, ça relève du niveau européen, puisque la politique commerciale de l'Union européenne a été transférée par des traités à la Commission européenne, mais il faut faire comme les Américains, c'est-à-dire aux États-Unis jusqu'à Trump, donc il y a quand même des mesures que Trump prend qui sont positives, jusqu'à Trump, on pouvait importer de n'importe quel pays chaque jour un produit avec une détaxe de 800 dollars. Et en Europe, sauf erreur, c'est 150 euros. Mmh. Bon, ben, il faut supprimer cette détaxe, c'est-à-dire mettre des droits de douane sur les produits de chaîne et Temu, d'autant plus que du point de vue de la transition écologique, c'est complètement taré, puisque on a des produits qui viennent en avion de Chine pour 2 euros, enfin, c'est complètement taré. Et il faut donc, et parallèlement, compte tenu de ce que ça coûte pour les postes et les acheminements, on peut parfaitement avoir une taxe d'un euro par paquet.
C'était 2 euros proposé Bruxelles d'ici 2026,
voilà,
pour payer les douanes.
Oui, mais pourquoi 2026? Pourquoi c'est pas mis en œuvre au 1er juin?
La fameuse consigne.
Donc, c'est le problème majeur. Mais donc, il faut effectivement lutter contre chaîne et Temu, parce que ça détruit les filières, non seulement de production, mais de distribution, et ça détruit des emplois de classe moyenne. Donc la Chine, c'est déjà 31% de la production manufacturière mondiale. La Chine est en surproduction à peu près dans tous les domaines. Ils sont en train de déstructurer filière après filière. Ils ont détruit la filière du photovoltaïque, ils sont en train de détruire les autres filières de la transition énergétique, mais ils sont en train de casser les filières de l'acier, de l'automobile, ainsi de suite. Maintenant, ils s'attaquent au textile. Donc, la question, c'est à partir de quand on répond en Europe à la stratégie chinoise. Alors, on pourrait se dire, les Chinois, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se calment et ils vont réduire leur production. Or, Xi Jinping vient d'annoncer que pour 2030, c'est-à-dire demain matin, il veut que la proportion de la Chine dans l'industrie manufacturière mondiale passe de 31 à 35. C'est-à-dire qu'il veut encore accélérer. Donc, les Américains mettent des droits de douane sur la Chine, c'est justifié.
Donc, les droits de douane, là, c'est bien.
Et nous, on devrait le faire vis-à-vis de la Chine. Donc, l'erreur de Trump, ça a été de mettre les droits de douane sur ses alliés, ce que personne ne comprend. Oui. Mais qu'ils mettent des droits de douane sur la Chine, tout le monde doit mettre des droits de douane sur la Chine, parce qu'elle a une stratégie suicidaire vis-à-vis du reste du monde.
Oui. Gaël, la question de pouvoir d'achat, quand même, derrière, dans l'esprit des Français.
Oui, alors, d'abord, sur les droits de douane justes, oui, évidemment que c'est possible quand on joue un bras de fer où on est plus fort que l'adversaire, c'est-à-dire quand on importe plus de ses produits qu'on envoie de produits chez lui. Donc, les Américains avaient raison lors du premier mandat Trump d'augmenter les droits de douane sur la Chine et de le refaire cette fois-ci. Peut-être sans gesticulation, ça aurait été plus efficace. Mais en tout cas, là-dessus, ils ont raison. On devrait les imiter. Et en revanche, je rebondis sur votre question, parce que ce que j'avais envie de dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christian. J'ai deux petites réserves. Enfin, ce n'est pas des réserves, c'est deux conséquences quand même. C'est que les Français sont très friands de l'achat à bas coût. Et donc, ils parlent de leur pouvoir d'achat constamment. Ça reste la priorité de nos concitoyens.
Mais
donc,
nous,
je pense qu'ils
vend des produits chinois en France.
Oui.
Ah bah oui.
La mode à petit prix.
La mode à petit prix.
La mode à petit prix.
Oui, mais au moins c'est la distribution française. Mais il y a pas de production française chez qui.
Je dirais pas à 100%, mais c'est majoritairement quand même du made in China.
Non, mais il faut qu'on puisse se protéger.
Ça vient de Roumanie,
et en même temps, jouer sur l'aspect pouvoir d'achat, c'est un sujet. Et puis l'autre petite réserve que j'avais, c'est si on rentre dans des guerres commerciales sérieuses sur les droits de douane avec les États-Unis. Si vraiment nous Européens, on est là-dedans. On ne peut pas faire la guerre à tout le monde en même temps. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être que l'Union européenne, déjà, elle prenne des décisions plus rapides et qu'elle se dise quel est notre ennemi. Quel est notre ennemi aujourd'hui?
Voilà.
Si l'ennemi, c'est Donald Trump parce qu'il nous met des droits de douane de malade, comme dirait l'autre, eh bien, peut-être qu'il ne faut pas faire une guerre commerciale en même temps avec la Chine, qui pourrait plutôt être notre allié. Parce qu'elle aussi, elle est en guerre commerciale avec les États-Unis.
Ou alors, on peut utiliser la Chine comme instrument pour dire à Trump, calme-toi.
Sinon, on baisse les droits de douane sur les produits chinois.
Voilà. Non, mais on pourrait dire à Trump, OK, on ne peut pas avoir plusieurs ennemis en même temps. Donc, OK, au moins pendant le temps que Trump est là, on accepte des droits de douane de 10% des Américains. Et nous, on ne met pas de droits de douane sur les produits américains. Et puis, on essaye de s'en sortir. Mais en contrepartie, on a besoin de 30, 40 ou 50% de droits de douane vis-à-vis de la Chine, parce qu'il faut que la Chine augmente sa demande intérieure. Le problème, c'est que toute la politique chinoise est sur l'export et pas sur la demande intérieure.
Il y a du mal, la demande intérieure chinoise, qui est un peu...
Parce qu'il casse la demande intérieure.
Mais qu'est-ce que vous me faites de mes Français qui veulent des t-shirts à 2 euros
en fait,
à qui on va déférencer, enlever l'application.
Je vais prendre cet angle, parce que la discussion est partie sur la fast fashion, et on finit sur les droits de douane, parce que finalement, c'est le gros sujet. Et moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est pas un sujet sur lequel je suis passionné, ému, etc., etc. Moi, j'utilise pas, donc il a fallu que je regarde un peu à quoi ça ressemblait. C'est pas que des habits, hein, c'est plein de petits objets, il y en a partout, c'est pas cher. Je comprends les Français, Ça m'agace, parce que d'un côté, ils vous disent il faut arrêter d'aller acheter des trucs chinois, mais c'est les premiers à acheter des trucs pas chers, donc forcément, il y a un moment donné, ça va poser un problème.
Il faut faire la connexion entre son emploi et ce qu'on achète.
Non, mais plus personne ne regarde le Made in. Enfin, voilà, ils ne regardent plus, en fait, donc ils ne se rendent pas compte.
Ils le regardent plus qu'avant.
Mais ça les empêche pas. Ils savent, tout bien pensant, en même temps, dans la même conversation, dit Trump est un salaud, mais j'achète quand même des trucs Made in Vietnam, ou le droit de travail commence à 13 ans, etc., etc. Donc, il y a toujours ce message, je peux pas leur en vouloir. C'est comme ça. Ce que je voulais juste dire, moi, ma vraie inquiétude, c'est qu'en fait, quand vous voyez ces filières, et là, on parle de fringues, parce que les droits de douane chinois, moi, je pense qu'il faut plus regarder sur les voitures, etc. C'est-à-dire sur une technologie où ils commencent à devenir aussi fort que nous.
Sur les voitures, on leur a mis des droits de douane, ils ont dit c'est pas grave, hein, ça ne change rien.
Vous allez voir qu'ils vont nous avoir, parce que quand vous regardez les voitures BYD, aujourd'hui, ça commence à devenir des voitures qui ne sont plus du tout, on peut se moquer, comparé avec les voitures européennes. Mmh. Alors peut-être pas avec les grosses berlines allemandes, mais avec les bas de gamme. Bon, là, Temu ou Shane, vous regardez toutes les associations qui retraitent les fringues qui sont mis 4 jours et qui sont ensuite donnés gentiment dans les friperies pour partir dans le reste du monde, etc. Ils ne savent plus quoi en faire. Donc, d'un point de vue écologique, d'un point de vue transition, d'un point de vue... C'est aberrantissime, ce sujet. Donc, en fait, il faut absolument fermer les vannes, et c'est le libéral qui vous dit ça, parce que cette technique chinoise, elle est faite pour étouffer, en fait, la qualité. BYD, ils ne sont plus sur ce truc-là. Ils ont une double stratégie. Là, ils viennent sur la technologie, l'aéronautique aussi, ils vont commencer à venir à nous faire du mal. Mais ils continuent quand même à venir avec des produits complètement
Et c'est une stratégie
nulle.
C'est une stratégie d'État.
Mais du coup, faut
elle est dangereuse pour la planète, pas que économiquement.
Les droits de douane, disait.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment
le déréférencement quand même. C'est violent, enfin,
c'est pas possible dans un monde ouvert.
Parce que légalement, je sais pas si légalement c'est possible.
On l'a déjà fait. On l'a fait pour Wish.
Il faudrait des raisons légales. Enfin, s'appuyer sur des raisons, des preuves du travail d'enfant, des choses impossibles.
Et la transition écologique.
La transition écologique
qui a une durée de vie de 5 jours.
Mais rien qu'en augmentant drastiquement les droits de douane sur certaines catégories de produits, ce serait possible.
Mais la transition écologique, parce qu'Emmanuel Macron a passé son petit coup de gueule hier en disant qu'il en a marre qu'on revienne sur les promesses écologiques d'avant, alors qu'il a critiqué les normes 15 jours avant. Quand vous les sondez dans l'opinion, Gaël, ils disent que c'est encore un sujet ?
Oui, ils disent que c'est un sujet, et on a une question barométrique qu'on pose de manière régulière, tous les ans notamment, qui consiste en gros à dire, est-ce que parce qu'il y a l'arbitrage pouvoir d'achat, donc on a voulu jouer là-dessus en disant, est-ce que vous pensez qu'il faut axer sur l'environnement et la transition énergétique, quitte à prendre des mesures qui seront plus délicates sur le pouvoir d'achat, ou bien au contraire considérer que c'est le pouvoir d'achat avant tout et ne plus se préoccuper d'environnement et transition écologique? Et les gens sont une majorité à dire, tant pis pour le pouvoir d'achat, quand on les oblige à faire cet arbitrage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est derrière un consommateur, dans telle ou telle enseigne, au moment où il va s'acheter un produit chinois à 2 euros, il faudrait lui susurrer à l'oreille, dis-moi, tu te souviens de ce que tu m'avais dit dans le sondage d'Odoxa? Est-ce que tu...
Bah, il va rien se passer du tout, les gens achètent point. Enfin,
c'est le syndrome continental. Vous vous rappelez cette histoire quand les usines continentales de pneus ont fermé en France, et il y avait eu, je pense que c'était BFM d'ailleurs, était allé interroger un type sur la chaîne de montage de pneus continental qui lui demandait de quelle marque étaient ses pneus. et il avait des Goodyear japonais parce que c'était 30% moins cher que Continental. Et il était en train de manifester en disant Continental n'a pas les moyens, pourquoi ils disent qu'ils ne peuvent pas payer nos charges. Et en fait, on est sur
les gens connectent pas.
Non, mais c'est une dichotomie
production.
Intellectuelle qui est très difficile pour les gens, en fait. Parce que d'un côté, bah, évidemment, le pouvoir d'achat est le truc central de leur vie.
C'est les autres qui feront les efforts. C'est aussi ce sentiment.
En fait, le pouvoir d'achat, il vient de la production. Et
toujours.
Les gens ne connectent pas le pouvoir d'achat et production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de pouvoir d'achat.
Mais c'est surtout que c'est presque des neurosciences qui traitent de ces sujets-là. Non, mais c'est vrai.
Faisons ça sur les bébés. On a
C'est pas par excès de bêtise.
Pouvoir d'achat égale production.
C'est pas par excès de bêtise. C'est par excès d'intelligence. C'est-à-dire, j'ai conscience, c'est comme celui qui va s'abstenir à des élections politiques alors qu'il sait qu'elles sont majeures, j'ai conscience qu'il faudrait faire ça, et j'ai conscience en même temps que je n'existe pas statistiquement, que je suis 1 sur 70 millions.
C'est comme donc, ça qu'on ne trie pas son pot de yaourt
voilà,
parce que
mais
ça change
mais c'est
rien,
exactement
et ça c'est
ça.
Terrible.
Et donc je ne trie pas mon pot de yaourt, et donc je ne respecte pas les règles, parce que finalement... Eh ben, d'autres, j'espère, le feront pour moi.
Bon, je propose la diffusion de BFM Business dans toutes les maternités de France à partir de la première minute de vie pour voir ce que ça donne.
Pas de répondre trop tôt.
Merci à tous les trois de m'avoir accompagné demain. Merci retour de Nicolas Dose dans Les Experts. Demain, journée spéciale tech sur BFM Business. On fêtera 25 ans d'émission tech avec tout un panel d'invités. Ça sera donc Les Experts avec Anthony Morel et Nicolas Dose et ses invités. Je vous dis à demain pour la matinale de l'économie, 6h-9h.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.